présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. La mort de Michel Piccoli, géant du cinéma, il s'est éteint la semaine dernière le 12 mai à 94 ans. De la grande bouffe jusqu'à Bemous Papam, Piccoli a probablement tout joué, c'est qu'il pouvait le faire. Réaction dans ce journal de Pierre Arditi et retour sur une riche et intense carrière avec Antoine Maret. L'Europe se déconfine peu à peu et vient maintenant le temps de la relance. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont retrouvés à distance aujourd'hui pour présenter une initiative commune dont Bertrand Galichet nous donnera les grandes lignes. Un plan doté de 500 milliards d'euros pour notamment constituer des stocks stratégiques de produits pharmaceutiques et médicaux. Et puis, quelle réaction des organisations syndicales du secteur de la santé après l'annonce de la tenue du Ségur de la santé qui aura lieu le 25 mai? Dans ce journal, la réaction sceptique, vous l'entendrez, de Jacques Trévidic, président d'APH Action Praticien Hôpital.
Moi, je vous dis que les gens qui agarreront pas la stèle verront les jardins et non pas les parkings.
Je suis désolé. Si vous voulez relire votre contrat, vous verrez qu'il existe...
Mais mon contrat, je peux vous le balancer par la figure. Moi, tant que je serai là, si je vois une cage à la main sur la pelouse, je la fous par terre. C'est vous qui habitez ici? Non. Bon. Moi, je vais aller chez vous et je vais faire passer le tout à l'égout sur vos fenêtres. Ferme votre gueule.
Michel Piccoli dans Les choses de la vie de Claude Sauté en 1970, compagnon de route de Buñuel autant que de Sauté et de bien d'autres. Michel Piccoli est décédé la semaine dernière à l'âge de 94 ans. On a appris qu'aujourd'hui, le personnage était complexe et aimait à jouer l'extravagance ou, comme il le disait lui-même, les délires les plus troubles. René, Demi, Melville, Renoir, Varda, Hitchcock, Michel Piccoli a tourné avec tout cela. Mais c'est avec Godard en 1963 qu'il s'est révélé, Antoine Maret.
C'est effectivement par le mépris que Michel Piccoli est révélé. Dans ce film de Jean-Luc Godard, il forme en 1963 un couple légendaire avec Brigitte Bardot. Il promène son physique anti-jeune premier de séducteur aux sourcils broussailleux sur une centaine de films, parmi lesquels Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sauté en 1974, dont cette célèbre scène de coup de sang reste dans les mémoires.
Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde.
Écoute François, écoute.
Ta gueule toi. Tu m'emmerdes toi, je t'emmerde. Je vous emmerde tous un beau dimanche, petit goût à la con. Merde.
L'acteur discret d'une remarquable longévité, son dernier grand rôle au cinéma est Habemus Papam de Nanni Moretti en 2011. Il y incarne un pape en proie au doute. Michel Piccoli fut également un homme engagé politiquement, à gauche et même très à gauche à une époque. Voici ce qu'il en disait il y a une dizaine d'années.
J'ai pas honte d'avoir été un compagnon de route du Parti communiste français. Je suis pas le seul à m'être trompé. J'ai fait partie de ceux qui sont rentrés dans une catastrophe.
Michel Piccoli s'était par la suite engagé dans divers combats contre le racisme et ce qu'il appelait le capitalisme débridé. Défense des sans-papiers, pétition pour la parité homme-femme dans la vie publique, mobilisation contre le Front National. Michel Piccoli fut très actif, notamment au sein de l'association SOS Racisme et aux côtés d'Amnesty International.
Antoine Maret, peu m'importe de faire des choses non commerciales, dangereuses, avait déclaré Michel Piccoli au Cahier du cinéma. Je préfère les prototypes aux séries. Parmi les innombrables réactions à la mort de Michel Piccoli cet après-midi, celle de Pierre Arditi.
C'est un caméléon, il a jamais... Il n'y a pas un film de Piccoli qui ressemble à un autre film de Piccoli, un peu comme Alain Resnais d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui a pris tous les risques et qui a eu comme plan de carrière, comme seul plan de carrière, son désir. Pour sa carrière, il n'en a jamais rien eu à foutre. Et c'est ce qui fait sa grandeur. C'est qu'à un moment donné, il a choisi, il a vécu, donc il a choisi. Et quand il a choisi, il a renoncé à tout ce qui reste. Voilà, c'est ça Michel Piccoli. C'est un homme exceptionnel. Michel Piccoli, je l'ai admiré presque, j'allais dire, depuis ma petite enfance, j'exagère, mais de mon adolescence en tout cas. C'est quelqu'un qui m'a subjugué tout de suite. Et ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours trouvé, je me suis toujours dit, il faut que j'arrive à être Michel Piccoli. Mais personne n'arrive à être Michel Piccoli.
Pierre Arditi au micro de Frédéric Carbone. Notre réaction ce soir à la mort de Michel Piccoli, celle de Brigitte Bardot, sa partenaire dans Le Mépris. Il avait du talent, de l'humour et il aimait mes fesses, écrit Brigitte Bardot dans un communiqué. Et qui montre qu'elle n'en est pas dépourvue non plus d'humour. Alors que l'Europe poursuit lundi son lent retour à la normale avec une nouvelle levée des restrictions imposées en mars en raison de cette épidémie de coronavirus, notamment dans le secteur touristique, à l'acropole d'Athènes qui a rouvert aujourd'hui, dans la restauration comme c'est le cas au Danemark, en Italie ou dans certaines régions d'Espagne, ou alors dans l'enseignement en France avec la réouverture des collèges. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont présenté il y a quelques minutes une initiative franco-allemande pour le redressement économique de l'Europe. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Benoît.
Après une réunion en visioconférence, les deux chefs d'État ont détaillé leurs pistes pour relancer l'économie, la santé, la transition écologique et numérique et la souveraineté industrielle. Un plan a été annoncé à hauteur de 500 milliards d'euros. À quoi correspondent, Bertrand, ces 500 milliards ?
Alors, ce qu'il faut bien distinguer à propos des 500 milliards du plan de relance franco-allemand, c'est d'un côté la ressource et de l'autre son utilisation. Si le plan franco-allemand est validé par la Commission européenne, donc par les 27, mais aussi par le Parlement européen, eh bien ces 500 milliards seront empruntés sur les marchés par l'Union européenne. Cet argent a donc vocation à être remboursé sur le long terme par les 27 à hauteur de leur contribution au budget européen. Angela Merkel a été très claire sur ce sujet. Sans doute pour rassurer les Allemands. Il s'inscrira dans ce que l'on appelle le cadre financier pluriannuel qui doit établir le budget de l'Europe pour la période 2021-2027 et viendra le compléter. Voilà pour l'origine de ces 500 milliards d'euros. En revanche, les bénéficiaires de ces fonds, qui seront à court terme les pays, les régions et les secteurs les plus touchés, les recevront sous forme de subventions, c'est-à-dire qu'ils devront les dépenser sans autre contrepartie que de l'utiliser à bon escient pour la relance. Donc d'un côté, un emprunt remboursable collectivement par les 27 et de l'autre, des régions d'Europe très affectées par les conséquences du coronavirus et qui recevront cet argent. On le voit, c'est un compromis entre les pays du Nord et ceux du Sud. Emmanuel Macron a d'ailleurs souligné qu'il y avait eu des consultations avec d'autres États. Il a cité l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi les Pays-Bas, par exemple, qui, on le sait, sont très réservés en matière de dépenses. Ces 500 milliards sont censés soutenir quatre piliers, la protection sanitaire, la relance économique, la transition écologique et la souveraineté industrielle.
Merci Bertrand Galichet.
L'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé s'est ouverte aujourd'hui entièrement par visioconférence, Benoît.
Une assemblée qui pourrait déboucher sur une enquête impartiale, indépendante et complète de la réponse internationale à la crise du coronavirus. Ce à quoi la Chine, visiblement, ne s'opposera pas si on en croit les déclarations du ministère chinois des Affaires étrangères. Accusée notamment par l'administration Trump d'avoir tardé à réagir, la Chine a d'ailleurs promis à l'ouverture des débats et par la voix de son président lui-même, Xi Jinping, de partager un éventuel vaccin et d'allouer 2 milliards de dollars au combat mondial contre la pandémie. Éric Biegala.
À l'ordre du jour de cette 73e Assemblée Générale de l'OMS, un seul texte en fait concernant la pandémie de Covid-19, une résolution présentée par une quarantaine de pays et portée par l'Union Européenne. Elle demande cette résolution deux choses. Premièrement, que soient conduites des études visant à identifier l'origine animale du virus, mais aussi deuxièmement, de lancer une évaluation des mécanismes et des mesures prises par l'OMS face à la pandémie. Une résolution défendue par le président français Emmanuel Macron dans son adresse à l'Assemblée Générale.
Nous devons regarder en face ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans la gestion internationale de la crise. Sans complaisance, sans accusation non fondée. C'est notre responsabilité.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, s'est dit d'accord pour lancer une évaluation.
We welcome the proposed resolution before this assembly.
Une évaluation impartiale, indépendante et complète du travail de l'OMS, mais il a demandé que cette évaluation prenne en compte l'action de tous les acteurs, pas seulement l'OMS, et ce, de bonne foi. Quant au président chinois, Xi Jinping, il a lui aussi donné son accord pour une telle enquête de terrain. Mais plus tard, une fois l'épidémie jugulée, la résolution sera soumise au vote des 194 États membres de l'OMS demain. Un peu plus de la moitié se sont d'ores et déjà prononcés en sa faveur. Il faudra une majorité des deux tiers, soit 130 pays, pour qu'elle soit adoptée.
Dans 5 minutes, nous allons parler dans le temps du débat des questions sociales, de cette cocotte minute sociale qui pourrait exploser. En particulier, on parlera de l'hôpital et des milieux de la santé. On a appris donc cette ouverture d'un Ségur de la Santé, Benoît.
Oui, il se tiendra le 25 mai, comme l'a annoncé hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, en présence des partenaires sociaux pour discuter de l'avenir de l'hôpital public après des mois de mobilisation des personnels et une crise sanitaire inédite. Un des objectifs, on le sait, est d'augmenter les salaires,
guerre. Mais comment cette annonce a-t-elle été perçue par les organisations syndicales dans le monde hospitalier? Écoutez Jacques Trévidic, président d'APH, Action Praticien Hôpital.
C'est pas la première fois qu'il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Je me souviens par exemple de celle du 20 novembre et il y en a eu d'autres encore avant. Est-ce que cette fois ça va déboucher sur des propositions concrètes qui sont conformes à la plateforme commune que nous avons définie? Est-ce que ces revalorisations salariales vont toucher toutes les catégories sociales à l'hôpital? Est-ce que ça va cibler le corps infirmier? Est-ce que ça va cibler le personnel médical? On n'en sait rien. Sur le financement de l'hôpital public, c'est un point aussi important de nos revendications. On ne sait absolument pas aujourd'hui quel va être le niveau du financement pour cette année et les années suivantes. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. On n'a pas de réponse au jour d'aujourd'hui. On verra peut-être le 25. On est dans l'expectative, hein, et c'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne la pression. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation qui est prévue le 16 juin. Mais on n'a pas encore pu définir ce qu'elle contiendra, puisqu'on n'a pas les réponses à nos questions.
Des propos recueillis par Margot Delpierre. Les conséquences économiques de cette crise sanitaire maintenant ensuite. En France, de nombreuses grandes enseignes sont à la peine après plus de 2 mois de fermeture. Les chaussures André, les vêtements Naf-Naf ou la chaîne d'ameublement Alinéa ont été placées en redressement judiciaire. D'autres comme la Fnac ou Darty ont obtenu des prêts garantis par l'État. Mais certaines enseignes peinent à obtenir le soutien des banques. C'est le cas notamment de Conforama que le concurrent bute lorgne avec appétit. Annabelle Grelier.
Ce n'était déjà pas la grande forme pour Conforama. Suite à des malversations de son actionnaire principal en 2017, l'enseigne s'apprêtait à la mi-avril à mettre en place son PSE, qui prévoit la fermeture de 32 magasins et le licenciement de 1900 salariés. La nouvelle direction commençait à peine à redresser les comptes quand la crise du Covid est arrivée. Pour y faire face, elle négocie depuis plusieurs semaines un prêt de 322 millions d'euros. Alors si l'État a bien déjà donné sa garantie, ce sont les banques, et notamment BNP Paribas, qui rechigne à prendre le risque. Or, sans cet apport financier, non seulement Conforama ne pourrait plus assurer le plan social pour ses salariés, mais il risquerait aussi le dépôt de bilan. Une situation dont pourrait profiter son concurrent But. En embuscade, il a déjà fait une offre de reprise pour seulement 2000 salariés sur les 7600. Des salariés en panique, nous explique Jacques Mossé-Biagini, le délégué central force ouvrière de Conforama.
C'est vrai que les salariés sont pas seulement moroses, mais paniqués, parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Déjà l'année dernière, bon, il y a l'annonce du PSE, 1900 collègues vont nous quitter. Déjà, il y avait une ambiance un peu lourde, et puis là, ces annonces-là, effectivement, le moral, je dirais, est au plus bas. Peut-être pas spécialement par rapport aux dirigeants actuels de Conforama, hein, mais par rapport à ce système, quoi, qui permet peut-être à une entreprise de se poser en prédateur, qui permet à des banques éventuellement de nous laisser tomber. En fait, les salariés ne savent plus trop, si vous voulez, à quel sein se vouer. Pour eux, ce qui se passe en ce moment, c'est une véritable torture.
Dans une lettre adressée au ministre de l'Économie, l'intersyndicale de Conforama demande à Bruno Le Maire d'intervenir. La direction du groupe, elle, souhaite obtenir son prêt pour continuer son activité. En dernier recours, si But faisait une offre acceptable, elle l'étudierait, a-t-elle affirmé.
Annabelle Grelier. Dans les entrepôts français d'Amazon, l'activité qui s'était arrêtée le 16 avril reprendra demain, mais avec seulement 30% des effectifs, d'après des syndicats de salariés d'Amazon. Autre conséquence au niveau mondial, cette fois du freinage économique ressenti à travers toute la planète. Uber annonce supprimer 3000 emplois supplémentaires après une première vague de 3700. La fermeture également de 40 bureaux dans le monde. Peut-être un espoir faible, mais un espoir tout de même en Afghanistan, avec la signature hier d'un accord de partage du pouvoir entre le président Ashraf Ghani et son principal opposant. Un accord indispensable pour la poursuite des discussions de paix avec les talibans, un point de blocage que l'on pensait impossible à lever. Les explications de Claude Guibal.
Entre le président Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, son rival malheureux à la présidentielle, les couteaux étaient plus que tirés depuis le scrutin de septembre dont Abdullah Abdullah contestait le résultat, allant jusqu'à former un gouvernement parallèle. Entre les deux hommes, les divisions séculaires entre les forces politiques et tribales du pays, un pouvoir pachtoun et des éléments non pachtoun représentés par Abdullah Abdullah qui réclament une part plus importante dans le partage du pouvoir afghan. L'accord signé ne dit pas quels postes ont été attribués aux proches d'Abdullah Abdullah. Abdullah qui réclamait le ministère des Affaires étrangères, les Finances et la Justice. On sait pourtant que c'est lui qui sera chargé de mener les discussions avec les talibans, avec qui les États-Unis ont signé un accord pour se retirer du pays, contre en gros la garantie que les talibans n'utiliseront pas l'Afghanistan pour attaquer les États-Unis ou leurs alliés. Et l'accord avec les talibans est impossible à mettre en place sans cet autre accord politique cette fois, permettant la création d'un gouvernement plus inclusif, chose signée donc sous la pression de la menace de la réduction de l'aide américaine, mais aussi de la violence qui a repris depuis les attentats de la semaine dernière, avec le retour des combats des forces afghanes contre les talibans.
Claude Guibal, deux mots de météo, de nouvelles averses sur le sud-est prévues demain mardi, beaucoup de nuages par ailleurs en Corse, et un temps très ensoleillé partout ailleurs. Les températures minimales seront comprises entre 4 et 9 degrés au nord et de 13 à 18 degrés sur le sud, maximal en hausse dans l'après-midi jusqu'à 27 degrés. Vous écoutez France Culture, il est 18h16.
Le temps du débat. Merci beaucoup, Benoît Bouscarel,
Emmanuel Laurentin.